le monde aujourd'hui. Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 11 octobre 2024. En Afrique du Sud, la justice décide de ne pas inculper le président Cyril Ramaphosa dans le scandale du Farmgate. Le Kenya promet le déploiement de 600 policiers supplémentaires en Haïti. Au Niger, 9 responsables du régime civil renversé en juillet 2023 sont provisoirement déchus de leur nationalité.
Le problème, c'est quand on déçoit un Nigérien de la nationalité. Effectivement, il faudrait qu'il, en contrepartie, il trouve une autre nationalité. Sinon, on est en contradiction avec la certaine convention des Nations Unies que le Niger a ratifiée.
Issoufou Boubacar Kado, analyste politique, va nous en dire plus dans la partie magazine. Passe d'âme russo-américaine lors du sommet de l'ASEAN. Le Nobel de la paix décerné à une organisation japonaise luttant contre les armes nucléaires. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. En Afrique du Sud, la justice abandonne les poursuites contre le président Cyril Ramaphosa dans le cadre d'un scandale de corruption. Cette décision fait suite à une enquête sur un vol survenu en 2020 dans sa ferme. Le point avec Nani Talani.
La décision de ne pas engager de poursuite a été prise après une évaluation minutieuse de toutes les preuves disponibles présentées au procureur. Il n'y a aucune chance raisonnable que les poursuites aboutissent, indique la direction des poursuites publiques de la province de Limpopo. De plus, un organisme anticorruption a blanchi le président sud-africain d'un potentiel conflit d'intérêts lié à cette affaire où des voleurs auraient subtilisé d'importantes sommes cachées dans des meubles de sa ferme. Le scandale dit Farmgate a éclaté en juin 2022. Un agent des services de renseignement avait accusé le président Ramaphosa de blanchiment d'argent, de corruption, d'avoir tenté de dissimuler le vol de 4 millions de dollars dans sa résidence et d'avoir organisé le kidnapping des voleurs pour acheter leur silence. Bien qu'il ait reconnu le cambriolage, M. Ramaphosa avait nié les accusations d'enlèvement et de corruption, affirmant avoir informé la police de l'effraction. Il avait aussi expliqué que l'argent provenait de la vente des buffles.
La haute cour du Kenya a décidé aujourd'hui que l'affaire de la destitution du vice-président Rigathi Gachagua devait être envoyée au président de la Cour suprême pour qu'il donne des instructions supplémentaires. Le Parlement kenya a voté mardi en faveur de la destitution de M. Gachagua sur la base de 11 chefs d'accusation, dont l'enrichissement personnel et l'incitation à la haine ethnique. Le vice-président a nié toutes les allégations et a déclaré que l'affaire était absurde. La semaine prochaine, le Sénat débattra des accusations et votera pour ou contre la destitution de M. Gachagua. Visite ce vendredi du Premier ministre haïtien à Nairobi. À l'occasion, le président kenyan William Ruto a assuré que 600 policiers supplémentaires seront déployés pour une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti ravagée par la guerre des gangs. Eric Manirakiza.
Je suis heureux d'annoncer que 600 policiers kenyans supplémentaires terminent leur formation préalable au déploiement et seront prêts à prendre leurs fonctions le mois prochain, a déclaré M. Ruto lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre intérimaire haïtien Gary Conille. Nous aimerions voir une réponse plus rapide, nous aimerions voir plus d'engagement et nous allons continuer à faire pression en son sens, a renchéri M. Conille. William Ruto, qui a assuré fin septembre que son pays acheverait d'ici janvier 2025 le déploiement de 2500 policiers, n'a pas précisé la date du déploiement de ces 600 policiers supplémentaires. Le président kenyan a également appelé la communauté internationale à se rallier d'urgence à cette mission qui fait face à un manque criant de financement et d'équipement. Haïti souffre depuis longtemps de la violence des gangs qui contrôle 80% de la capitale de Port-au-Prince et des axes majeurs du pays. Il y a une semaine, une violente attaque de gang a tué au moins 109 personnes et fait plus d'une centaine de blessés dans la localité de Ponsondé à environ 100 km de Port-au-Prince.
Le parti présidentiel en République démocratique du Congo a appelé ce vendredi ses membres à se préparer à la mise en œuvre du processus de révision de la Constitution, l'opposition mettant en garde depuis la réélection de Félix Tshisekedi contre une possible tentative de ce dernier de s'accrocher au pouvoir. Cette Constitution qui nous régit a montré ses limites, affirme le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès, UDPS, Augustin Kabouya, dans une note adressée aux dirigeants du parti et publiée sur son compte X. Au Sénégal, le pouvoir présentera lundi en grande pompe son programme pour les 25 prochaines années. La présidence vante comme un tournant ce référentiel des politiques publiques intitulé Sénégal 2050, agenda national de transformation économique mais aussi politique, a dit ce vendredi le premier ministre Ousmane Sonko. Le modèle de développement proposé sera structuré autour de 8 pôles de développement sur le territoire, a dit le premier ministre. Sénégal 2050 ambitionne de réduire la pauvreté, de tripler le revenu par habitant d'ici à 2050 et d'atteindre une croissance économique annuelle moyenne de 6 à 7%, dit la présidence.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deux casques bleus ont été blessés, dont un grièvement ce vendredi après que des explosions attribuées aux forces armées israéliennes se sont produites près d'un poste d'observation de la force de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban. C'est la deuxième fois en l'espace de 48 heures que des soldats de la paix sont ainsi visés par Tsahal dans le sud du Liban. Dans un communiqué exprimant sa vive préoccupation, l'armée israélienne a assuré être en train de mener un examen approfondi au plus haut niveau du commandement pour établir dans le détail ce qui s'est vraiment passé ce vendredi. L'armée Sahel a aussi fait état d'environ 80 projectiles tirés à partir du Liban. Le sommet des pays d'Asie du Sud-Est, ASEAN, a donné lieu à une nouvelle passe d'armes ce vendredi entre les États-Unis et leurs alliés. D'un côté, la Russie et la Chine de l'autre, au dernier jour des discussions. Dilidico.
Vientiane, la capitale du Laos, a vu converger les poids lourds de la diplomatie mondiale pour 3 jours de dialogue qui ont également abordé le conflit en Birmanie. Mais les divergences sur les différents dossiers ont empêché un accord sur un communiqué final à la fin du sommet. Le bloc de 10 pays qui constitue l'ASEAN a l'habitude d'inviter ses principaux partenaires qui veulent garder un pied dans cette région stratégique. Aux côtés des dirigeants japonais, sud-coréens ou indiens, le sommet a réuni dans la même pièce le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov qui tentent de s'éviter suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je l'ai écouté, je ne peux pas dire s'il m'a écouté, mais je n'ai rien entendu de nouveau, a déclaré Anthony Blinken, qui a assuré ne pas avoir eu de contact direct avec son homologue russe. Les États-Unis ont promis de soutenir durablement l'Ukraine et de ne pas négocier avec Vladimir Poutine dans le dos de Kiev. Sergei Lavrov a affirmé de son côté que l'action américaine en Asie du Sud-Est est destructrice, accusant Washington de pousser le Japon à une militarisation à travers la création d'une possible alliance régionale sur le modèle de l'OTAN.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu ce vendredi par le pape François au Vatican, lui a demandé l'appui diplomatique du Saint-Siège pour aider à rapatrier les Ukrainiens détenus par Moscou dans le cadre de sa tournée européenne de 48 heures pour obtenir davantage de soutien. La tournée européenne de M. Zelensky intervient alors que les forces russes continuent à progresser dans l'est de l'Ukraine. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des frappes nocturnes russes ont tué 4 personnes, dont une adolescente, et en ont blessé 10 autres dans la région côtière d'Odessa. Le Nobel de la paix a récompensé ce vendredi le groupe japonais Nihon Hidankyo, qui regroupe des survivants d'Hiroshima et Nagasaki et qui lutte contre pour un monde purgé de l'arme atomique. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a réagi en appelant à éliminer les bombes nucléaires des engins de mort. Alexandrine Olognon.
Nihon Hidankyo est distingué pour ses efforts en faveur d'un monde sans armes nucléaires et pour avoir démontré par des témoignages que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisées, a déclaré le président du comité Nobel norvégien. C'est extrêmement significatif, a jugé le premier ministre japonais Shigeru Ishiba. Fondée en 1956, Nihon Hidankyo est une organisation qui représente les survivants de ces bombardements. Leur récompense intervient alors que la Russie a, à plusieurs reprises, agité la menace nucléaire depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Pour les Occidentaux, la menace vient aussi de la Corée du Nord qui multiplie les tirs de missiles balistiques et de l'Iran soupçonné de vouloir se doter de la bombe nucléaire, ce que Téhéran dément. La planète s'apprête à commémorer l'an prochain le 80e anniversaire des deux premières utilisations de l'arme atomique par les États-Unis à Hiroshima et Nagasaki au Japon, qui ont fait au moins 214 000 morts.
Et la situation restait tendue ce vendredi en Martinique, île française des Antilles, malgré l'instauration d'un couvre-feu sur fond de protestation contre la vie chère. Toute la nuit, les forces de l'ordre ont tenté de contenir les émeutiers qui ont érigé des dizaines de barrages à travers l'île. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Ghana a mis en œuvre le free roaming ou l'itinérance gratuite de la CEDEAO avec le Bénin et le Togo. Les Ghanéens en déplacement dans ces pays et les Togolais et Béninois voyageant au Ghana bénéficient de tarifs locaux pour les appels et SMS internationaux sans frais supplémentaires pour les appels et messages entrants. L'accès à Internet est également facturé au tarif local. L'avantage s'applique pour un séjour d'un mois. Le Fonds monétaire international a validé le versement d'une nouvelle tranche de financement de 825 millions de dollars à la Côte d'Ivoire dans le cadre d'un programme d'aide économique. Un accord a été trouvé autour de mesures fiscales additionnelles permettant de réduire le déficit public à 3% du PIB en 2025. Selon le FMI, la croissance pour la période de 2025-2029 devrait rester solide à 6,7% de moyenne. Dans le cadre de la semaine africaine du pétrole qui s'est clôturée hier au Cap en Afrique du Sud, l'Organisation des producteurs de pétrole africain s'est opposée au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières proposé par l'Union européenne et a appelé à la mise en œuvre d'un moratoire au profit des pays africains. Selon la Fondation africaine pour le climat, cette disposition qui sera effective en 2026 impliquera un manque à gagner annuel pour l'Afrique de 25 milliards de dollars.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Cannes CAF Total Energy 2025, le Mozambique, la Zambie et la Gambie tenus en échec.
Dans leur match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Energy, Madagascar et la Gambie se sont neutralisés avec un score de 1 partout, tout comme le Mozambique et les Swatini. De leur côté, la Zambie et le Tchad se sont quittés sur un match nul 0-0, tandis que la Guinée équatoriale a pris l'avantage sur le Libéria avec une victoire d'un but à 0. 12 autres rencontres sont programmées aujourd'hui, promettant des duels intéressants tels que Égypte contre Mauritanie, Mali face à la Guinée, Tunisie opposée aux Comores, Cameroun contre Kenya et la Côte d'Ivoire, championne en titre, qui affronte la Sierra Leone.
Mondial 2026, le Brésil renverse le Chili, l'Argentine freinée au Venezuela.
Le Brésil a renversé in extremis le Chili lors de la 9e journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026 qui a vu l'Argentine, leader, faire match nul au Venezuela. En difficulté dans ses éliminatoires et seulement 4e, le Brésil a pris 3 points précieux face à une équipe chilienne qui risque de manquer une 3e Coupe du Monde consécutive après avoir échoué à se qualifier pour la Russie en 2018 et le Qatar en 2022. Le Brésil, quintuple champion du monde et qui n'a jamais manqué une Coupe du Monde, est 4e avec 13 points, tandis que le Chili est 9e et avant-dernier avec 5 points. Les 6 premiers se qualifient directement, le 7e disputera un barrage.
Près de 900 000 euros d'amende pour Nottingham Forest qui avait critiqué la VAR sur X.
Nottingham Forest a écopé de cette amende ce vendredi pour avoir critiqué l'arbitrage vidéo sur son compte X lors d'un match perdu contre Everton en avril dernier, a indiqué la Fédération anglaise de football. Le club de Premier League était furieux de ne pas avoir bénéficié de 3 pénaltys lors d'une défaite 2-0 contre Everton, alors concurrent direct pour le maintien.
Nottingham est actuellement 10e de la Premier League avec une seule défaite depuis le début de la saison. Extrêmement déçu, Forest a jugé cette amende totalement disproportionnée et a annoncé faire appel selon un communiqué du club.
Page de sport VOA Afrique signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Niger, 9 responsables du régime civil renversé en juillet 2023 sont provisoirement déchus de leur nationalité, dont le général Karingama Wali Ibrahim, ancien chef de la garde présidentielle. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint à Niamey l'analyste politique Issoufou Boubacar Kadou.
Vous savez, il y a une ordonnance là de 27 août 2024. C'est une ordonnance récemment là. Elle ne fait pas 2 mois d'être prise là. C'était en août, je crois, qu'elle a été prise. Et c'est cette ordonnance là qui donne droit au président de prendre un décret. Bon, dans l'ordonnance, c'est précisé qu'elle a créé un fichier des personnes sur lesquelles des soupçons de connivence avec des puissances étrangères pour déstabiliser le pays, en relation avec des terroristes pour attaquer certaines installations économiques du pays. C'est ça, il y a une ordonnance qui dit, il y a une liste des gens, il y a un fichier qui est créé, il y a même un comité qui doit gérer ce fichier. Donc une fois qu'on vous inscrit dans ce fichier-là, et normalement, l'article 10 de l'ordonnance dit que vous pouvez attaquer la décision du comité avec des arguments contraires à ce qu'ils disent. Vous pouvez aller vous défendre pour contester la décision. Si le comité persiste et que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller à la Cour suprême. C'est le dernier recours. Normalement, c'est comme ça la procédure. C'est pour ça que je crois que même dans le décret, on dit qu'ils ont été déchus de leur nationalité nigérienne provisoirement. C'est provisoire en attendant que ce recours soit épuisé et que la plus haute juridiction se prononce.
Et ceux qui perdent donc leur nationalité, s'ils sont des Nigériens qui n'ont pas d'autre nationalité, qu'est-ce qu'ils deviennent après?
Normalement, il y a le code de nationalité nigérienne qui éclaire là-dessus. Je crois que c'est à l'article 35. Qui dit normalement, bon, le code de nationalité nigérienne est conforme à certaines conventions internationales que le Niger a ratifiées. Le code de nationalité, bon, ça ligne sur le fait que nul ne peut être déchu de sa nationalité s'il n'a pas en contrepartie la nationalité d'un autre pays. Ça, c'est le code de nationalité nigérienne qui dit. Les gens, pour les défauts de leur nationalité, ça ne pose pas de problème, parce que déjà, eux, ils sont des étrangers qui ont acquis la nationalité par naturalisation. Le problème, c'est quand on déçoit un Nigérien de la nationalité, effectivement, il faudrait qu'il, en contrepartie, il trouve une autre nationalité. Sinon, on est en contradiction avec certains Congolais. Des Nations Unies que le Niger a ratifié.
L'analyste politique Issoufou Boubacar Kadou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h/24.
Au Cameroun, le gouvernement interdit tout débat dans les médias sur l'état de santé du président Paul Biya, d'après une décision signée du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji. Cette semaine déjà, le gouvernement et la présidence de la République ont démenti les rumeurs sur l'état de santé du chef de l'État qui a quitté le pays depuis le 2 septembre dernier. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Djulunta.
La sortie du ministre de l'administration territoriale a suscité une vague d'indignation au sein de la classe politique de la société civile.
L'envie de conserver le pouvoir fait qu'il sorte des décisions les plus impopulaires possibles.
Aloïs Parfait Mvoum, le président du Forum républicain, une formation de l'opposition, est un habitué des débats politiques dans les médias.
Ce que fait le ministre n'est qu'une construction depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Le problème, mais c'est davantage le problème de l'alternance. On veut noyer cette alternance, on veut la confisquer, on veut l'embrigader. pour que les acteurs politiques que nous sommes passions à côté de cette alternance.
Le gouvernement évoque que l'état de santé du président relève du domaine de la sécurité nationale. Réaction de Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
La santé du président fait partie de notre sécurité et on doit en débattre pour savoir quelles dispositions prendre. Et ce qu'il devrait faire, c'est de demander à son collègue ministre de la Communication de mieux nous rassurer au-delà de son communiqué, de pouvoir tout simplement nous dire, nous faire parler, monsieur Biapol. On a besoin de voir notre président. C'est une obligation pour eux de nous montrer s'il est là. Et s'il n'est pas séquestré, parce qu'il faudrait que ce président nous dise où il est lui-même.
L'avocat camerounais Christian Bonotimban dénonce quant à lui un seuil de violation de liberté d'expression sans précédent. Cet avocat avait adressé une lettre ouverte au directeur du cabinet civil de la présidence de la République, lui demandant d'informer le peuple sur la situation du président Paul Biya.
La question de la santé d'un président, c'est un débat citoyen dans tous les pays. On l'a vu dernièrement avec le président Biden. Donc les communiqués ne peuvent pas arrêter que des citoyens continuent à s'interroger sur la santé d'un chef d'État. Si le président ne se sent pas bien ou alors n'est plus en capacité d'exercer des fonctions parce qu'il est malade, on arrive à un cas de vacances. On parle d'empêchement définitif dans le cadre de la Constitution camerounaise.
Les débats dans les médias privés et les publications des Camerounais sur les réseaux sociaux sont désormais scrutés de plus près par des services compétents de l'administration. Bouba Ngomna, présentateur d'une émission dominicale de débat politique sur la chaîne de télévision privée Canal 2 International.
Pour ce dimanche, naturellement, ce sujet ne sera pas évoqué. Avec cette sortie, on s'arrange toujours à équilibrer. Par exemple, les débats. On connaît toutes les tendances. Mais du moment où on prend toute cette peine à équilibrer les débats et qu'on dise que on ne doit plus choisir un sujet au détriment d'un autre, ça veut dire en ce moment-là que c'est ces autorités-là qui deviennent soit des directeurs de publication ou soit des directeurs d'information ou peut-être des rédacteurs en chef pour choisir les sujets.
Donc il n'est pas fondé, il n'a ni les moyens ni les capacités d'empêcher les citoyens, les 25 millions de citoyens que nous sommes, de parler du président qui est l'institution.
Reportage signé Emmanuel Jelentab à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
Le procès en appel dans l'affaire de la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo, avec 37 personnes condamnées à mort en première instance, s'est ouvert hier devant une cour militaire dans la capitale Kinshasa. Les condamnés tentent de renverser cette sentence, alors que le moratoire sur la peine de mort en application dans le pays depuis 2003 a été levé cette année. Eddy Sango a joint à Kinshasa l'avocat d'un des trois Américains condamnés, Maître Richard Bondo.
Une première audience au degré d'appel, c'est juste une audience d'identification des prévenus ou des condamnés. On les a identifiés. Il y a eu un échange pour la suite du procès entre la cour, le ministère public et nous, les avocats de la défense, et même quelques avocats des partis civils qui étaient présents. Nous avons convenu d'une remise pour débuter l'instruction de la cause. Et la remise a été fixée au 18 octobre courant, c'est-à-dire le vendredi prochain.
Maître, 37 personnes ont été condamnées à mort. On sait que les moratoires sur la peine de mort a été levée. Peut-on penser qu'on puisse arriver à renverser à ce deuxième procès ces condamnations
à lever? Oui, c'est pour cela qu'il y a appel. C'est-à-dire le degré d'appel, c'est pour réformer le jugement qui a été attaqué. Au degré d'appel, pour nous, avocats de la défense, singulièrement moi qui suis avocat de M. Zalman, l'un des citoyens américains condamnés à la peine capitale, je maintiens ma position que la peine de mort est abolie en République démocratique du Congo par l'article 61.1 de la Constitution, joint à l'article 16, alinéa 1er de la même Constitution. Donc, je conclus que la peine de mort ayant été déjà abolie, La condamnation à une peine capitale, c'est comme si les juges ayant condamné à la peine capitale l'ont fait juste pour avoir peut-être bonne conscience, mais en réalité, ils savent que ça ne sera pas exécuté, étant donné que la peine capitale a été abolie. Voilà.
Maintenant, y a-t-il autre raison pour laquelle vous vous attaquez à... au verdict de, au premier degré, à part le fait de vouloir... Est-ce que vous attaquez aux preuves, vous attaquez à quoi?
Oui, bon, pour Zalman, c'est parce que la peine de mort est abolie, mais il y en a d'autres qui vont aborder le fond des infractions pour dire que c'est injustement que les condamnés l'ont été. Une autre raison, c'est que dans le groupe des condamnés ou même des personnes qui ont été jugées, de mon côté, il n'y a personne qui soit de la garde républicaine qui était ce jour-là ou cette nuit-là au Palais de la Nation.
Pourquoi devait-il être condamné ou jugé? Parce que ce n'est pas eux qui ont fait
ça. Les gens qui n'ont jamais manié l'arme, les gens qui ne savent pas le métier d'arme, comment pouvaient-ils perpétrer un coup d'État? Donc c'était une infraction impossible.
Maître Richard Bondo, l'avocat d'un des trois Américains condamnés dans l'affaire de la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Ici aux États-Unis, un groupe influent d'électeurs estime qu'une seule religion chrétienne et nationaliste doit dicter les lois de ce pays. Mais cette notion divise les libéraux et les conservateurs démocrates et républicains. Le récit est de Michel Joseph.
Deux rassemblements et deux points de vue différents. Celui-ci s'intitule « Rallye pour la démocratie » ou « Mouvement pour la démocratie » soutient toutes les religions. L'autre s'appelle « Reawaken America Tour » ou « La tournée pour réveiller l'Amérique ». Jésus est mon sauveur, Donald Trump est mon président. Ce dernier groupe, qui en est à sa troisième année, soutient le nationalisme chrétien, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis sont un pays chrétien et devraient avoir des lois qui le reflètent. Diane Bollinger achète des souvenirs lors d'une pause.
Je serai volontiers une nationaliste chrétienne, car que peut-on dire contre le christianisme? Et ils parlent de « Je suis le Dieu de l'amour, je suis ma vie selon Jésus et j'aime mon pays. Make America great again. Qu'y a-t-il de mal à cela ?»
Rien, répond le candidat républicain Donald Trump.
Ensemble, nous sommes des guerriers dans une croisade juste pour arrêter les pyromanes, les athées, les mondialistes et les marxistes. Et c'est ce qu'ils sont. Et nous resterons une république en tant que nation unique, sous Dieu, avec la liberté et la justice pour tous.
Patty Kinsinger est une électrice de Pennsylvanie.
Notre pays a été construit sur des valeurs et des principes chrétiens et judéo-chrétiens. C'est ainsi qu'ils ont écrit la Constitution.
La Constitution américaine ne mentionne pas le christianisme. Au contraire, elle accorde la liberté de religion. La Déclaration d'indépendance affirme que les droits sont accordés par un créateur et mentionne le Dieu de la nature. Pourtant, les prêcheurs de la tournée pour réveiller l'Amérique prêtent serment pour appeler à voter pour des candidats pieux. À l'opposé, les démocrates considèrent qu'il s'agit d'une violation de la séparation constitutionnelle entre l'Église et l'État. Comme Mary Jo O'Rourke, démocrate du Montana.
Les pasteurs doivent vraiment se pencher sur ce que signifie la liberté et la justice pour tous et en parler avec leurs fidèles.
D'autres participants au groupe, dit Mouvement pour la démocratie, sont d'accord et certains appellent à un débat sur les enseignements de Jésus. C'est le cas du révérend Jim Wallace de l'Université de Georgetown.
Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Parce que ce genre de message qui veut attaquer les immigrants et causer le plus de souffrance aux pauvres et aux vulnérables est littéralement un mouvement anti-Christ.
Selon une enquête du think tank Pew Research, près de la moitié des Américains pensent que la Bible devrait avoir une influence sur les lois américaines. Toutefois, le même sondage révèle que peu d'Américains pensent que le christianisme devrait être la religion officielle du pays.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous.